Entrer dans la prière des psaumes, c'était le thème de la récollection de l'Avent proposée par le service diocésain de la catéchèse et animée par l'abbé Jean-Bernard Hayette, délégué épiscopal à la catéchèse, récollection qui s'est déroulée à Salis-de-Béarn le 5 décembre 2019. Entrer dans la prière des psaumes, l'abbé Jean-Bernard Hayette.
Cette prière donc des psaumes est présente depuis le début de l'histoire de l'Église. Mais même avant, puisque vous savez que les psaumes, ils ont à peu près, on va dire grosso modo 3000 ans d'existence, peut-être un peu moins, mais au moins 3000 ans d'existence quand même. Les plus anciens des psaumes remonteraient au Xe siècle avant Jésus-Christ. Ça vous dit sûrement quelque chose, donc 10 siècles avant Jésus-Christ, ce sont les débuts de la monarchie en Israël et d'une liturgie organisée avec le roi David, qui nous est bien connu. On peut dire que cette prière des psaumes est parfois encore aujourd'hui trop souvent méconnue ou considérée comme destinée aux seuls moines et religieuses, et sortes de virtuoses du bon Dieu, ou alors à ceux qui ont le temps de s'y plonger un peu sérieusement. Souvent pour le chrétien lambda, il s'agit d'un texte un peu flou quand il ne semble pas un peu farfelu, avec des expressions qui parlent parfois du combat, de la poursuite des ennemis, enfin... On verra ça tout à l'heure aussi. Ce texte qui est lu entre les deux lectures de la messe, ou qui inspire parfois aussi quelques chants, plus ou moins entraînants. Pourtant, on peut dire que les psaumes sont une prière offerte à tous, une prière qui façonne, à condition de bien vouloir entrer dedans. Ils sont un trésor de la prière. Ils possèdent toutes les couleurs de la prière, dit l'exégète Jacques Neuviard, prêtre. Déjà Saint Basile, il est mort en 379, Saint Basile disait « Dans le livre des psaumes, tout est caché comme un trésor, comme dans un immense grenier ouvert à tous. » Et Basile ajoute « Un psaume, c'est une citadelle pour se réfugier des démons, un moyen pour attirer l'aide des anges, une arme contre les craintes nocturnes, un repos dans les labeurs du jour. » Une protection pour les enfants, une consolation pour les anciens. Il illumine les jours de fête, il apporte une tristesse en accord avec Dieu. Il est indéniable que le roi David a donné une impulsion à cette poésie sacrée et qu'il est probablement l'auteur direct de bon nombre des psaumes que nous chantons. Il faut savoir que pendant longtemps, les psaumes ont d'abord été transmis oralement. Chaque génération... apportant sa propre inspiration et même parfois des modifications. Mais ce qui est essentiel, c'est de savoir que ce sont des hommes de prière, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, qui nous ont transmis leur expérience de ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Ces psaumes, ou poèmes, ont la vertu d'élever à Dieu l'esprit des hommes, d'éveiller dans les hommes des sentiments religieux et saints, d'aider les hommes aussi, admirablement, à rendre grâce dans les circonstances heureuses, mais aussi de leur apporter consolation et force d'âme dans l'adversité. Les psaumes ne sont pas des textes à lire, ni des prières en prose, mais des poèmes de louange. Vous savez qu'en hébreu, d'ailleurs, on les appelle les cantiques de louange. Bien que ce titre ne convienne qu'à un tiers des psaumes, puisqu'il n'y a pas que de la louange dans les psaumes. Il y a parfois des cris de souffrance ou des cris de révolte, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Donc en hébreu on l'appelle cantique de louange, en grec psalmoi, c'est-à-dire cantique à chanter. On les chante au son du psalterion, qui est un instrument de musique. C'est un peu un genre de... Je ne connais pas beaucoup tout ça, mais comme une petite harpe. Si vous allez au Carmel de Bayonne, eh bien, elles accompagnent le chant des psaumes, précisément avec cet instrument qu'on appelle le psalterium, qui ajoute une petite mélodie musicale au chant des psaumes. On peut dire que le psautier, comme toute la Bible, est le livre de la rencontre entre Dieu et les hommes. À travers la voix de ce peuple choisi, Israël, un peuple qui espère, supplie, rend grâce, se révolte, crie, s'angoisse, nous écoutons les gémissements de l'Esprit-Saint qui se fraye un chemin à travers l'épaisseur de l'homme, de son histoire, de ses mots et de ses pensées. Avec ces hommes, jeunes, vieux, sages, guerriers, prisonniers, malades, traqués, exilés, prêtres, lévites, paysans, poètes, rois, courtisans, nous entrons dans ce dialogue multiséculaire entre Dieu et l'humanité, entre un Dieu qui se révèle et qui révèle peu à peu son rêve d'amour et l'homme en quête de sens. Étant donné que les psaumes sont la parole de Dieu, c'est pour cela d'ailleurs que dans la liturgie, vous savez que on ne peut jamais remplacer un texte de la parole de Dieu par un texte profane, surtout dans les liturgies eucharistiques, mais parfois, c'est maintenant, ça n'arrive que très rarement, on pensait aussi, à la place du psaume, on va mettre un cantique, trouvé dans ma vie ta présence, etc., etc. Le psaume fait partie intégrante de la parole de Dieu. Ce n'est pas un petit chant, un ornement qui a été ajouté là. Donc, autant que je ne peux pas remplacer un texte d'évangile par un texte de Victor Hugo, je n'ai pas à remplacer un psaume dans la liturgie par un cantique quel qu'il soit. Par contre, après, il y a parfois des chants, des mélodies qui ont été adaptées à un psaume. Le plus flagrant, moi dans mon enfance, je l'ai chanté sans cesse, le psaume 22, donc « Tu es mon berger, ô Seigneur », mais il reprend mot pour mot le psaume. Alors là, avec les enfants, il n'est pas interdit en effet de prendre ce chant qui est adapté. Voilà. Peut-être, je pensais à un autre chant, je peux être contesté par les liturges, les spécialistes de la liturgie dont je ne suis pas. Ce chant qu'on chante parfois, « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut », par le firmament, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, etc. Je me disais peut-être que ça rejoint le psaume 8, je ne sais pas si vous avez étudié là, ou ce matin. Donc voilà, ça peut rejoindre, donc peut-être que ça, on pourrait faire une concession, mais enfin bon, si en liturgie je me dis « Non, absolument pas, il faut vraiment, mot pour mot, ça, bon, je ferai ça ». Mais là, j'aurais peut-être fait une concession. Donc, étant donné que les psaumes sont la parole de Dieu, celui qui prie les psaumes parle à Dieu avec les paroles mêmes que Dieu nous a données. Il s'adresse à Dieu avec les paroles que lui-même nous donne. Benoît XVI a fait une catéchèse sur les psaumes, plusieurs d'ailleurs, et dans l'une d'entre elles, il dit ceci. Vous voyez, c'est-à-dire que quand je prie un psaume, quand je chante un psaume, quand je médite un psaume, je parle avec les mots mêmes de Dieu. Alors pour bien comprendre, voilà ce que dit Benoît XVI. Il fait la relation entre l'enfant que nous avons été d'ailleurs aussi, qui a appris à parler, qui a d'abord balbutié, et puis qui a appris à parler avec des mots, mais des mots qu'on n'a pas inventés, que nous avons reçus de nos parents, de nos éducateurs, etc., etc. Alors il dit ceci, Benoît XVI. Il advient quelque chose d'analogue lorsque l'enfant commence à parler, c'est-à-dire qu'il apprend à exprimer ses sensations, ses émotions, ses besoins, avec des mots qui ne lui appartiennent pas de façon innée, mais qu'il apprend de ses parents et de ceux qui vivent autour de lui. Ce que l'enfant veut exprimer, c'est son propre vécu, mais le moyen d'expression appartient à d'autres, et lui, peu à peu, s'en approprie. Les mots reçus de ses parents deviennent ses mots, et à travers ses mots, il apprend aussi une manière de penser et de sentir. Il accède à tout un monde de concepts. Il grandit à l'intérieur de celui-ci. Il entre en relation avec la réalité, avec les hommes et avec Dieu. On nous a appris à dire bonjour, on nous a appris à dire pardon, on nous a appris à dire merci, on nous a appris à dire s'il te plaît. On n'a pas inventé nous-mêmes, on l'a reçu de nos parents qui eux-mêmes avaient reçu, etc. Et ces mots nous permettent de rentrer en relation d'abord les uns avec les autres. Bonjour monsieur, bonjour mon père, bonjour ma sœur et ma fille. Voilà. Et puis bonjour au Seigneur aussi. Voilà. Vous comprenez ce que Benoît XVI dit. Enfin, j'ai pas besoin de détailler la pensée de Benoît XVI. Qui suis-je ? Donc on accède à tout un monde, on gradit à l'intérieur, on entre en relation avec une réalité. La langue de ses parents est enfin devenue sa langue. Il parle avec les mots reçus des autres qui sont désormais devenus ses mots. Ainsi en est-il avec la prière des psaumes. Ils nous sont donnés pour que nous apprenions à nous adresser à Dieu, à communiquer avec lui, à lui parler de nous, avec ses mots à lui, Dieu. à trouver un langage pour la rencontre avec Dieu. C'était l'audience générale du mercredi 22 juin 2011. Vous savez combien il y a de psaumes ? 150. Il y en a eu beaucoup plus, mais on en a retenu 150 en tout cas. Il y a 150 psaumes. Bon, là, un petit mot sur la numérotation des psaumes, parce que vous verrez que dans vos Bibles, si tout à l'heure aussi, il y a souvent le psaume. Par exemple, ils sont numérotés de 1 à 150. Mais il y a une numérotation un peu différente, parce que dans la Bible grecque, la Septante et la Vulgate, la numérotation est décalée par endroit. Tout ça parce qu'on a par exemple fusionné deux psaumes. Les psaumes 9 et 10 ont été fusionnés, ainsi que les psaumes 114 et 115, tandis que les psaumes 116 et 147 ont été divisés en deux. Alors par exemple, vous voyez, il y a un psaume, on vous met psaume 50, mais entre parenthèses, 49. Ça fait que parfois on va vous dire, regardez le psaume 50 dans une Bible, mais dans l'autre, dans la Bible de Jérusalem, ce sera le psaume 50, pitié pour moi mon Dieu, dans ton amour, etc. En fait, dans d'autres Bibles, ce sera peut-être le numéro 49, voilà. Mais c'est tout, ne me donnez pas plus d'explications que ça. En fait, le premier chiffre cite l'hébreu, d'accord ? Et entre parenthèses, c'est le grec, voilà, pour faire court. 150 psaumes. Le plus long des psaumes, vous savez lequel c'est ? C'est le 118. Il contient 176 versets. Psaume 118 contient 176 versets. Et le plus court de tous les psaumes, il ne contient que deux versets, c'est le psaume 116, que l'on chante dans la liturgie aussi pour les grandes fêtes, etc. Alors comme il est court de verset, qu'est-ce qu'il dit ? Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays, son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur. Et avec tout ça, vous avez tout dit au Seigneur, et vous avez transmis l'invitation à tout le monde, louez le Seigneur tous les peuples. À travers les psaumes, Dieu donne aux croyants les mots pour lui présenter les joies et les souffrances, les drames, et les événements de toute la création à partir de la famille humaine. C'est pas pour rien que saint Paul un jour a écrit aux chrétiens d'Éphèse, aux Éphésiens donc, chapitre 5, verset 19 à 20, et il leur dit ceci, « Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur, célébrez-le de tout votre cœur, à tout moment. » Et pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. L'homme, en priant avec les psaumes, retrouve à la fois sa place centrale dans la création et en même temps l'humilité qui le pousse à chanter les louanges du Seigneur. Nous retrouvons notre place. On est au cœur du monde, de l'univers visible. Voilà notre place. On est même pro-créateur avec le Créateur. Tout lui appartient. Et en même temps, Genèse nous dit que donc il nous a tout remis. Il a fait de nous les gérants de cette création dont on nous parle beaucoup en ce moment. Donc place centrale dans la création. Et en même temps, une humilité, parce que rien ne vient de moi. Tout est reçu par un autre, avec un grand A. Je suis poussé, l'homme est poussé à chanter les louanges du Seigneur. Si vous avez étudié avant le psaume 8, c'est un peu ça qui nous était proposé. La prière des psaumes rappelle aux croyants qu'il est rendu grand par Dieu. Il est rendu grand par Dieu. Dieu qui met sur mes lèvres les paroles que je dois lui adresser. Comme Jésus d'ailleurs ne s'est pas privé de mettre aussi ses paroles dans notre bouche pour la prière que nous avons adressée tout à l'heure au Seigneur, que nous adressons régulièrement, notre Père. C'est une prière aussi que nous avons reçue. Et nous l'avons reçue de celui qui est vrai Dieu, Jésus. En éloignant toute tentation d'orgueil, les psaumes nous conduisent à Dieu uniquement pour le glorifier. C'est pour ça que, alors les psaumes, on les appelle les psaumes de David, hein, mais même si je vous ai dit que, je vous l'ai dit ou je vous le dirai tout à l'heure, oui, David n'est pas essentiel, il a né l'auteur pour un certain nombre, mais certainement pas de tous. Mais il y a un apologiste juif qui dit à ce propos, j'aime bien, on raconte que lorsque David eut achevé le livre des psaumes, il se sentit un peu fier. Il dit à Dieu, « Maître du monde, parmi tous les êtres que tu as créés, y en a-t-il un qui chante plus que moi ta gloire ?» Et à ce moment-là, David entendit une grenouille qui disait, « Moi, je chante plus que toi en l'honneur de Dieu. » Ça va centrer le... Voilà, David à l'humilité. Mais bon, c'est un apologiste. Hein, les Juifs, ils aimaient bien inventer des petites histoires comme ça. Mais voyez, ça dit aussi que ils nous conduisent à Dieu uniquement pour le glorifier. Hein. Pas dire, voilà, oh Seigneur, j'ai fait une belle prière, on a fait une belle prière, etc. Parce que moi-même, j'avais bien préparé cette prière aujourd'hui. La grenouille vient nous dire, mais c'est rien par rapport à ce que moi je fais, grenouille, ou moi le petit oiseau qui fait cuit-cuit toute la matinée, je loue encore plus fortement que toi le créateur de toutes choses. Ils ne vous le disent pas, les rouges-gorges en ce moment, ou comme ça, voilà. Saint Augustin disait, l'âme humaine est un abîme. Et quand on parle à une âme humaine des choses divines, on fait descendre dans l'abîme de l'âme, l'abîme des cataractes de Dieu. Les physiciens d'autrefois, en tout cas, disaient que la nature a horreur du vide. On peut dire que Dieu, lui aussi, quand il voit une âme vraiment vide d'elle-même, se précipite pour la remplir. Je pensais ici à Paul Claudel. Vous savez que Paul Claudel, c'est un homme très célèbre, très beaux écrits. Paul célèbre s'est converti à Notre-Dame de Paris le 25 décembre 1886. Et il s'est converti, il a assisté aux vêpres, donc l'après-midi de Noël. Debout, il était debout derrière un pilier, peut-être un peu caché. Et voilà, il était saisi comme ça par la beauté de cette liturgie. Et ce qui a été le détonateur de sa conversion, ça a été au moment du chant du Magnificat. Je ne le développerai pas, vous savez que le Magnificat, quand même, il puise aussi dans la richesse de tous les psaumes. Hein. La Vierge Marie, c'est inspiré, ou l'Esprit Saint lui a inspiré ses propres mots pour chanter le Magnificat. Et donc, voilà, vous voyez, les cataractes de Dieu, à un moment donné, vont fondre dans cette âme, celle de Claudel, par exemple, hein, qui, à partir de ce chant du Magnificat, qui est un psaume finalement aussi, un cantique évangélique, mais inspiré des psaumes, eh bien, voilà, c'est la rencontre avec Dieu. Comme dira l'autre, Dieu existe, je l'ai rencontré. Et alors on comprend pourquoi, après, en parlant des psaumes, voici ce que dit Claudel. Ouvre ce livre, prête l'oreille à l'énorme rumeur qui s'en dégage. Écoute tout à la fois et dis-toi que cela vient de loin, ce que tu entends. Ce ne sont pas les grêles inventions de tel ou tel auteur particulier. D'un pôle à l'autre et venant des profondeurs les plus reculées de l'origine, celle de l'homme, celle du monde qu'il habite, c'est l'ascension vers Dieu de l'élément, nous, en proie à l'Esprit-Saint. C'est la voie vers Dieu depuis la création du monde, de tous ceux qui existent, de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui croient, de tous ceux qui espèrent, de tous ceux qui aiment, de tous ceux qui demandent. Voilà, vous voyez qu'il nous donne envie vraiment d'approfondir les psaumes à travers cela. Et puis il y a un deuxième témoignage qui est quand même très fort. C'est la propre fille de Staline. Vous connaissez l'affreux Jojo que ça a été. Alors faites-moi grâce de la prononciation. Elle s'appelait Svetlana Alilouyeva. Il faut savoir que donc... Svetlana, la fille de Staline, a grandi au cœur même du Kremlin, bien sûr dans l'athéisme le plus fort et le plus rigoureux qui eût jamais existé. Elle est une femme. Plus que d'autres, elle a connu les drames de ce régime inhumain. Drame d'abord de sa propre mère qui a été acculée au suicide, et puis drame ensuite d'être la fille de Staline. À 35 ans, Svetlana se demande à son tour si le suicide n'est pas une solution. Un peu plus de la vie, voilà, toute l'accumulation qu'elle a eue, etc. Donc, elle pense au suicide. Mais elle rencontre un converti, André Sinyavski. Et André Sinyavski lui fait connaître les psaumes. Et à partir de ce moment-là, voilà ce que dit la fille de Staline. « La vie pour moi se comblera chaque jour d'une inépuisable source, forte comme un soleil. Je cherchais des paroles qui me fassent mieux comprendre ce que je ressentais. Je les trouvais enfin dans les psaumes de David. David chante le cœur ouvert, le cœur battant à se rompre. Il s'étourdit presque de la vie et dans la vie il voit Dieu. Il demande à Dieu de lui venir en aide lorsque parfois il sent qu'il flanche. Il raconte alors cette faiblesse, cherche en quoi il s'est trompé, se fait reproche de ses erreurs, puis se dit qu'il n'est pas grand-chose, juste un atome de l'univers, mais justement, un atome quand même. Et voilà qu'il remercie Dieu de tout ce monde autour de lui et de cette lumière dans son âme. Elle continue. « Jamais je n'ai vu de paroles qui agissent si sûrement que celles de ces psaumes. Leur poésie brûlante nettoie, redonne courage, permet d'y voir clair en soi, de voir en quoi l'on s'est trompé et de repartir. Les psaumes sont une grande flambée d'amour et de vérité. » Son père Staline a dû se retourner dans la tombe. Par les mots qu'ils nous fournissent, les psaumes en effet nous font adopter les attitudes de prière qui nous donne d'entrer en communion avec Dieu à travers toutes les circonstances de notre vie. À mesure que nous reprenons ces psaumes, nous développons en nous le réflexe de la louange. Nous apprenons à crier plus spontanément vers Dieu dans nos situations de souffrance ou de détresse. On pourrait dire qu'en d'autres termes, le fait de reprendre fréquemment ces psaumes trace en nous des sentiers de prière. Quand je dis, voilà, simplement, voilà, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ou, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire, que penser, j'en ai marre, etc. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Oui. Ces phrases-là, tirées des psaumes, elles tracent en nous un chemin de lumière. Que fais-tu, Seigneur? Ne vois-tu pas que je suis en train d'enfoncer dans la vase? C'est un psaume. Ça trace un chemin de prière pour nous. Je reprends, donc voilà, la reprise fréquente des mêmes psaumes, trace en nous des sentiers de prière. Pensez un peu comme, vous savez, quand on marche dans un champ d'herbes hautes. Les herbes sont hautes, donc vous marchez dans un champ. Si l'on passe simplement une fois dans ce champ, à un moment donné, les herbes vont se redresser et vous reviendrez le lendemain, il y aura pas le sentier ne sera pas tracé. Il aura repris son cours normal. Enfin, l'herbe plutôt aura de nouveau repris sa place. Et mince, je retrouve plus le chemin. Voilà. Par contre, si vous passez régulièrement dans ce champ d'herbe haute tous les jours, etc., à la fin de la semaine ou du mois, eh bien, l'herbe ne pourra plus repousser, c'est-à-dire que vous aurez tracé, eh bien, un sentier où il sera désormais, eh bien, plus aisé de marcher, de circuler, de trouver son chemin. Mais on pourrait dire, toutes ces images sont limitées, mais vous voyez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que par le fait de prier ces psaumes d'une manière habituelle, répétée, eh bien, ce sont en effet des chemins de prière qui s'ouvrent dans notre cœur. Il devient alors peut-être un peu plus facile. Je ne vais pas dire très facile, mais il devient alors peut-être un peu plus facile, en effet, de se relier à Dieu dans toutes les circonstances de la vie, heureuses ou malheureuses. Les psaumes sont des psaumes donc de cantiques de louange, mais je vous ai dit que c'est valable pour un tiers, puisqu'après, il y a aussi d'autres cris, et notamment des demandes. La prière de demande, eh bien, elle nous est aussi recommandée par le Seigneur. Elle est spontanée, c'est un acte de foi en Dieu qui est Père, qui est bon, qui est tout-puissant. C'est un acte de foi en moi qui suis petit, pécheur, dans le besoin. Donc je viens demander au Seigneur. Le pape François voilà, dit cela dans une audience générale le 12 décembre 2018. C'est pourquoi la prière pour demander quelque chose est très noble. Dieu le Père qui a une immense compassion pour nous, qui veut que ses enfants lui parlent sans peur directement en l'appelant Père, ou dans les difficultés en disant « Mais Seigneur, que m'as-tu fait ?» Nous pouvons alors, dit le pape, tout lui raconter, même les choses qui dans notre vie demeurent déformées et incompréhensibles. C'est ce que font les psaumes aussi. Nous avons besoin de cet espace de prière pour retrouver la source, l'eau qui donne vie. Les uns et les autres, nous sommes submergés par mille occupations. Nous cherchons toujours un espace aussi pour nous souvenir dans la prière. Et il faut nous souvenir dans la prière que le Seigneur a déjà sauvé le monde et que nous sommes invités avec lui à rendre tangible ce salut. Pour nous, malgré les aléas de la vie, les catastrophes, les souffrances, les pépins, etc., nous qui sommes disciples du Christ, hein, des hommes et des femmes de foi, et parfois de peu de foi, comme dit Jésus à ses apôtres, mais en même temps, eh bien, nous sommes ancrés fondamentalement dans cette espérance. Le monde est déjà sauvé, et que nous devons rendre tangible, nous, que ce sauvetage a eu lieu, excusez-moi du mot, si vous voulez. C'est pour ça que Nietzsche disait quoi ? Il disait, mais moi je croirais quand les chrétiens auront des têtes de ressuscité, il aurait pu dire des têtes de sauvés finalement. Parce que si vous et moi nous embrayons toujours dans les Jérémiades du monde, et on le trouve, alors il faut écouter les personnes qui vous disent ça, mais vous dites, oh là là, le monde est fichu, ça ne va plus, c'est catastrophique, etc. Oh oui, comme vous avez raison, ma bonne dame, en effet. Et puis si vous rajoutez en plus une louche à ces formes de désespérance, voilà. Après, mais nous croyons vraiment à la puissance du Christ qui marche à nos côtés ou pas ? Alors après, vous n'allez pas dire à la personne, non, vous inquiétez pas, le monde est sauvé, tout va très bien, madame la marquise. Non, on le sait bien, puisqu'il faut quand même qu'on retrousse nos manches pour nous-mêmes essayer après, d'apporter le secours à celui qui souffre ou qui a besoin d'être épaulé, d'être aidé, etc. Hein. Mais en même temps, ça nous ramène aussi au témoignage que nous donnons afin de notre appartenance au Christ ressuscité. C'est pas pour rien que le matin de Pâques notamment, mais dans la parole de Dieu, saint Paul lui-même dit « Le Christ est ressuscité et vous, vous êtes ressuscité avec le Christ. » Ah bon, mince alors. Eh oui, enfin voilà. Bon. Ça nous stimule en fait, hein. C'est pas pour nous dramatiser les choses en disant « Oh mais alors je suis un piètre chrétien ou autre. » Non, mais dire « Voilà, mais Seigneur, ancre-moi vraiment que tu as sauvé ce monde quoi déjà. » Et que tu continues aujourd'hui encore d'ailleurs, à travers l'Eucharistie, ne serait-ce. Chaque fois qu'est célébré ce mémorial, dit une prière, c'est la rédemption du monde qui s'accomplit. La prière des psaumes élargit notre horizon, notre vision. J'aurais presque envie de dire qu'elle nous rend catholiques, elle nous rend universels. Le lien que nous entretenons avec le Christ instaure entre tous les disciples une nouvelle modalité d'être entre eux, de se comporter. C'est la modalité proprement chrétienne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce qu'on disait des premiers chrétiens, qui étaient en très petit nombre ? Voyez comme ils s'aiment. Vous voyez, quand même, les relations qu'ils ont, tellement fraternelles, et voilà. Ce que l'on dit dans vos paroisses, quand on vous voit vivre dans une paroisse, les uns avec les autres, avec le curé avec ses brebis, on dit, mais, oh, dans telle paroisse, oh, comme ils s'aiment, quel témoignage vraiment d'amour, de fraternité. Donc, c'est ce lien avec le Christ, voilà, qui fraternise, excusez-moi du mot, hein, mais qui fraternise nos liens entre nous. Être croyant en Jésus nous rend tous co-responsables les uns des autres. Le 21 août 2019, dans l'audience générale, je cite le pape, il dit « Mais regarde celui-ci, le problème qu'il a. Cela ne m'intéresse pas, ça le regarde. Non, parmi les chrétiens, nous ne pouvons pas dire « Le pauvre, il a un problème à la maison, il traverse cette difficulté familiale. Mais moi, je dois prier, je l'emporte avec moi. » Je ne suis pas indifférent. C'est cela, être chrétien. Je l'emporte avec moi. C'est très beau quand même. Donc, vous voyez que quand je prie les psaumes, Je suis pas là, j'emporte avec moi toutes ces situations. C'est d'autant plus vrai pour les consacrés. Alors, Paul aussi, qui est diacre, nous prêtres. Et vous savez que lors de l'ordination diaconale, alors pour les futurs prêtres, nous promettons le célibat sacerdotal, nous promettons l'obéissance à l'évêque, et nous promettons la prière de la liturgie des heures, c'est-à-dire la prière des psaumes. Ça veut dire par là que quand je dis mon bréviaire, je, c'est pas la béaguette, c'est tout prêtre finalement. Il se dit que dans cette prière-là, j'emporte avec moi le peuple qui m'a été confié, si je suis curé de paroisse par exemple, ou si je suis délégué à la catéchèse, j'emporte tout ce peuple, vous, des catéchistes, des enfants, des jeunes, etc. Vous voyez, c'est pas une prière personnelle, hein. Je vais dire mon bréviaire, oui, mais c'est, hein, je vais célébrer la liturgie des heures, c'est-à-dire que, hein, je fais cet acte de, je suis comme le Christ, l'orant, O-R-A-N-T, hein, le priant, hein, pour le peuple qui m'a été, enfin, qui appartient au Christ, mais qui m'a été confié, dont une portion m'a été confiée. Oui, moi je dois prier, je l'emporte avec moi. Et donc vous-même aussi, vous faites un peu cet acte-là quand une personne vous confie une difficulté, etc. Ah, tu sais, avec mon mari, en ce moment ça va pas, ceci, cela, tout ça. Bon, ah bon, je vais venir chez toi, je vais régler le problème. Non, non, non. Vous laissez tranquille. Hein, vous mêlez pas de ces histoires-là ou avec la belle-mère. Mais par contre, je vais emporter avec moi ce que tu m'as dit là et. Crois-moi, je le porterai aussi devant le Seigneur. Et je pense que ça fait beaucoup de bien aux personnes aussi. S'ils sentent que derrière ce qu'on leur a dit, c'est du sincère et que, voilà. Je ne te laisse pas seul dans cette épreuve-là. Je ne vais pas venir, je fais pas partie de l'ONU, moi, ou des casques bleus pour venir régler le problème conjugal, parental, filial, ou enfin que sais-je, hein. Mais je t'emporte avec moi. Je ne suis pas indifférent. C'est cela être chrétien. Vous rappelez, il y a quelques années, Dieu et son âme, c'est un protestant d'ailleurs, hein, il tenait à sa foi, hein, mais voilà, un premier ministre français déclaré à l'Assemblée nationale, bon, c'était Michel Rocard, hein, il y a en effet dans le monde trop de drames, de pauvreté, de famine, pour que l'Europe et la France puissent accueillir tous ceux que la misère pousse vers elle. Tous les drames qui blessent l'humanité, nous pouvons, nous, les prendre en charge au travers de la prière des psaumes. Et prêter notre voix, aux sans force, aux sans espérance qui n'ont parfois même plus la force de crier vers le ciel. Lorsqu'un homme prie, il en tire un bien, d'un point de vue personnel bien sûr. Là je pense à Jean-Paul II. On a demandé un jour au pape Jean-Paul II, mais Saint-Père, la prière c'est important. Oui, c'est très important. Et heureusement qu'il a dit ça, Saint Jean-Paul II. Et alors quelqu'un lui a dit, mais quand on voit... Tous les drames du monde, les souffrances, les actes barbares, enfin la folie meurtrière, etc., et qu'on prie et que ça ne change pas. Alors il dit, le pape répond grosso modo, il dit comme ça, je sais qu'en priant, je vais pas changer tous les problèmes du monde en un instant, par contre en priant, moi-même, je commencerai à changer. Et je pense que, bon voilà, ça situe bien aussi la perspective des psaumes aussi. Donc lorsqu'un homme prie, il en tire un bien d'un point de vue personnel, en renforçant sa relation avec le Seigneur, mais c'est aussi finalement tout son entourage qui reçoit une bénédiction, une protection de la part de Dieu. On peut dire d'ailleurs que l'inverse est aussi vrai, lorsqu'un homme commet le mal, c'est toute l'humanité qui l'entraîne dans sa chute. Je le développerai peut-être tout à l'heure avec le psaume 50, le psaume de David. Vous savez, comme dit l'adage d'ailleurs, une âme qui s'élève, élève le monde. Bon, on pourrait dire aussi, un homme qui tombe dans le précipice, il entraîne aussi les autres avec lui. Vous voyez, cette solidarité, hein, ou cette fraternité, hein, plutôt évangélique. Jésus dans l'évangile d'ailleurs ne se prive pas de montrer la solidarité qui unit tous les hommes dans le bien comme dans le mal. Ce serait une erreur de croire que les conséquences de nos propres actes n'ont de répercussions qu'au niveau individuel. Voilà, le prochain m'est confié, je dois prendre soin de lui comme le bon samaritain. Je suis appelé à l'aimer, à l'aider, à l'entourer, à lui donner le témoignage du Dieu amour. Trois perspectives pour prier les psaumes, brièvement. Voilà. Quand j'ai un psaume devant moi, trois perspectives. Comment prier ces psaumes? D'abord, on peut prier les psaumes en faisant nôtre les mots du psalmiste. C'est-à-dire, je prie ce psaume, c'est moi maintenant qui parle. Ces mots, comme vous savez, quand je vous ai dit avant l'enfant, quand nous étions enfants, nous sommes appropriés des mots que nous avons reçus de nos parents, de nos grands-parents, de nos éducateurs, qui sont aujourd'hui nos propres mots que nous utilisons. Et que après, si vous êtes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, vous transmettez aussi d'ailleurs à vos petits-enfants, dans leur prime enfance, quand ils ont besoin de rentrer en relation. Voilà, ils vont dire d'abord miam miam pour dire j'ai faim, et puis ils disent non, alors quand maintenant il faut dire voilà, j'ai faim. Voilà. On prend des mots. Donc c'est pareil, nous faisons, première perspective, pardon, je fais mien les mots du psalmiste. Alors des exemples, par exemple. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires. J'ai des adversaires. Ah, mais qui? Mon curé, mon chef d'atelier, ma femme qui me tape sur les nerfs, mes enfants qui sont adolescents et en guerre avec moi, ça peut être un peu cela. Mais en même temps, il y a les adversaires extérieurs. Peut-être que un chrétien qui est au fond d'une geôle persécuté en ce moment, etc. Ça va résonner d'une autre manière. Ses adversaires, ce sont ceux qui l'ont pris en otage, qui l'ont peut-être battu, torturé, ou qui sont constamment en train de le menacer de mort. Enfin, c'est une réalité qui existe aujourd'hui. Et après, il y a des adversaires intérieurs aussi, qu'ils sont nombreux, mes adversaires. Alors, ça peut être... je ne vais pas vous confesser ni mes péchés, ni les vôtres, mais ça peut être notre égoïsme, notre caractère qui s'emporte pour un rien, ça peut être ma difficulté relationnelle, qui viennent se frotter à moi. Ou alors, ces psaumes deviennent les miens, quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Psaume 30, bien sûr, le plus bien connu, en tes mains je remets mon esprit. Ça apaise. Ou alors, comme David, c'est moi là, lave-moi tout entier de ma faute. Je m'approprie le psaume. Ainsi, selon le genre de ce psaume que nous prions, puisqu'il y a plusieurs genres, soit que nous rendons grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il nous a accordés, soit que nous lui demandons de l'aide pour une situation à laquelle nous faisons face personnellement, nous prions pour nous-mêmes. Ce qui donne de la joie au ciel, c'est notre conversion. Ce n'est pas de nous voir réciter des psaumes comme des moulins à prière. Donc la sincérité, l'authenticité de, entre guillemets, notre lecture du psaume est indispensable. Notre implication personnelle dans le psaume, comme s'il parlait de nous qui en ce moment sommes en train d'espérer en Dieu, de lui demander son pardon, de lui crier nos reproches, de le remercier pour son aide, ou pour la beauté de ce monde, ou de notre vie. Psaume 36, par exemple, « Fais confiance au Seigneur, agis bien, reste fidèle, mets ta joie dans le Seigneur. » Ou alors un autre psaume, 48, verset 16, « Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort. » Psaume 63, « Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte. » Face à l'ennemi redoutable, protège ma vie. Donc voilà, première perspective. La deuxième perspective, on peut prier le psaume dans une perspective christologique, c'est-à-dire relier ce psaume à la personne vivante du Christ, puisque je vous rappelle qu'au moment même où je vous parle, il est quand même vivant, ressuscité. Il est à la fois dans la gloire du Père et il est en même temps au milieu de nous, puisque nous sommes quand même rassemblés en son nom. Quel mystère quand même. C'est ça. Donc, dans une perspective christologique. Dans ce cas, nous prions le psaume comme s'il était dit par Jésus-Christ lui-même à Dieu le Père. Nous savons que Jésus, comme tout juif pieux de son temps, a prié les psaumes. Et c'est ça qui est beau, voyez. Moi, des fois, je le dis aux personnes, je dis, voyez, je vais vous prier avec vous un psaume. Ce psaume, Jésus lui-même l'a prié. La Vierge Marie a prié les psaumes. Les apôtres, les disciples. C'est pour ça que quel malheur de se passer de cette belle prière qui nous rattache vraiment, et les saints et les saintes, jusqu'à aujourd'hui, se sont aussi nourris de la prière des psaumes. Donc c'est vraiment triste de se passer de ce grand réseau de prières, je dirais ça comme ça. Donc comme tout juif pieux, Jésus a prié les psaumes, on peut penser même qu'il en connaissait plusieurs par cœur. Dans cette perspective christologique reliée au Christ, prier le psaume nous fait communier à la prière même du Christ. Et ça nous fait rentrer finalement dans l'intimité de la relation qui existe entre lui, Jésus, le Fils, et son Père. On peut dire même qu'ils nous font rentrer dans leur communion d'amour. Vous le savez donc, le Christ a vécu notre condition d'homme en toutes choses, à l'exception du péché. On peut dire qu'il a récapitulé en sa personne toutes les situations de l'homme devant Dieu. Le juste qui proteste de son innocence. Je n'ai rien fait, tu m'accuses injustement. Le juste qui proteste donc de son innocence. C'est lui. Vous vous rappelez, même lors du procès de Pilate, on lui donne une gifle et on dit « Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Et là, c'est une protestation de son innocence. Tu me frappes, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Donc le juste qui proteste de son innocence, c'est lui. Le pauvre qui demande justice, ou le malade qui implore sa guérison, c'est lui. Le fidèle qui rend grâce pour sa délivrance, ou le pèlerin qui marche vers la cité et le temple de Dieu, vers Jérusalem, c'est lui. J'étais dans la joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». C'est un psaume que les tribus chantaient en montant vers Jérusalem. Et le Christ a prié et chanté ce psaume avec son peuple. On pourrait dire que les psaumes ne sont jamais aussi vrais que dans la bouche et le cœur de Jésus. Et désormais, prier les psaumes, chanter les psaumes, c'est s'associer à la grande voix du Christ, à celle de l'Église et à celle de tout homme. On peut dire qu'on ne prie jamais seul avec les psaumes. Alors, je vous cite quelques psaumes. Voilà, donc la visée christologique. « Seigneur, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, alors j'ai dit, moi, voici, je viens. » À Noël, c'est ce qu'on fête. On fête le « je viens » de Jésus. « Je viens sur cette terre. Je viens sauver. » Au soir de la Passion, psaume 117, « Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur. Et lui m'a exaucé et mis au large. » Imaginez la scène le soir du jeudi saint, quand il a pris le repas, il est à Gethsémani, il crie son angoisse au Seigneur. La lettre aux Hébreux, d'ailleurs, j'aime beaucoup, il dit ceci, il a présenté à Dieu, avec un grand cri et dans les larmes, sa supplication. Donc, on ne mesure certainement pas assez la sainte humanité du Christ, mais dans son humanité la profonde, où il dit d'ailleurs au Seigneur, « Père, si ce calice peut s'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite. » Donc dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé mis au large. Ou alors, psaume 118, « Au milieu de la nuit, je me lève et te rends grâce pour tes justes décisions. » Au milieu de la nuit, combien de fois les apôtres ont été témoins de la prière de Jésus qui partait ou tôt le matin ou tard le soir dans la nuit pour prier, pour entrer en relation. Donc, seconde perspective, christologique. Et enfin, la troisième perspective, je dirais prier le psaume dans une perspective ecclésiologique, avec l'Église. Nous abordons le psaume, même si je suis seul, comme s'il était chanté par l'Église entière, par le peuple de Dieu dont je fais partie, qui se tourne vers son Seigneur. Et c'est ce que notamment ceux qui sont tenus, entre guillemets, à la liturgie des heures, donc que je vous ai parlé, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, etc., eh bien, même quand je suis seul chez moi, eh bien, j'emporte avec moi ce peuple que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ce n'est pas une prière personnelle, là. C'est comme si ce psaume-là est dit par l'Église tout entière, par le peuple de Dieu. Nous prions alors au nom de l'Église et pour l'Église. Alors, par exemple, le bonheur de dire, psaume 46, « Seigneur, aucun parmi les dieux qui est né comme toi et rien n'égale tes œuvres. » Aucun parmi les dieux n'est comme toi et rien n'égale tes œuvres. Là, je peux relier, voyez, une parole de Jésus quand il dit que Salomon, dans toute sa splendeur et ses vêtements royaux, etc., c'était de la pacotille et du pipi de chat à côté du plus beau des lys qui fleurit dans le champ. Voyez. Rien n'égale tes œuvres. Ou alors, acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Ou alors, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Cette pierre avec un grand P, c'est une personne, c'est le Christ. La pierre rejetée, le Christ bafoué, crucifié, mis à mort. Rejeté, crucifié en dehors de la ville. On le rejette. Il devient la pierre d'angle le matin de Pâques. La fondation, le Christ ressuscité, vainqueur. Ou le psaume 150, « Alléluia, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance. » Alors ce temple, ça peut être la plus majestueuse des cathédrales, la plus petite des chapelles ou des oratoires, mais ce temple aussi, c'est chacun d'entre nous. Saint Paul, vous êtes le temple saint habité par l'Esprit. Louez Dieu dans son temple saint. Le temple que je suis fait aussi monter cette louange. En conclusion, je vous propose le dernier des psaumes, le psaume 150. Et le commentaire qu'en fait un dominicain, le père Philippe Verdun. Alors ce psaume, il commence d'abord par un mot que vous connaissez bien, Alléluia. Alléluia, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du cor, sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes, par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez amené vos cordes, vos harpes, vos cithares? Est-ce que vous êtes prêts à danser pour le Seigneur? Oh. Voici le commentaire du père dominicain. Alors, il a dû faire le bruitage que je ne peux pas faire. Et il fait comme ça, ta-ra-ta-ta, ra-ta-ta-ta, ra-ta, bon bref. Et alors il dit, que toutes les musiques du monde, un orchestre géant, avec des cuivres et des percussions, chantent la louange au Seigneur. Dieu ne veut pas qu'on lui offre un sacrifice avec des immolations. Dieu ne veut pas qu'on s'arrache les cheveux, qu'on déchire nos vêtements, qu'on se roule sur un lit de cendres. Il veut qu'on lui offre des aubades pétaradantes. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il nous demande. Et pour lui faire plaisir, Dieu veut qu'on joue de la musique. Il y a un temps pour tout. Un temps pour le silence recueilli et un temps pour le concert philharmonique. Bach, Mozart, Handel, Poulenc sont des saints puisqu'ils ont répondu aux vœux de Dieu. De la musique avant toute chose. Quand un chœur grégorien ou une flûte traversière élèvent leurs arpèges sous la voûte romane d'une église, la paix de Dieu vient dans les cœurs et l'harmonie l'emporte quelques instants sur les rivalités et les méfiances. Nous sommes alors en communion avec la musique du ciel et la musique des anges. Chacun de nous a éprouvé ces moments de grâce. Chanter, c'est prier deux fois, disait saint Augustin. Libérons la louange de notre corps, embouchons nos corps, C-O-R-S. Nos trompes, nos clairons, nos hautbois, nos clarinettes et nos trombones. Et si nous ne savons pas jouer d'un instrument, chantons à perdre voix. Dieu a fait pour nous des merveilles. Je trouvais ce commentaire, voilà, ça m'a plu. Bon. Je termine en disant, s'approcher des psaumes est un chemin pour parler en vérité à Dieu. Les psaumes sont finalement une véritable école de prière. Un véritable chemin de sainteté. Ils nous font contempler l'œuvre de Dieu en nous. Merci à l'apôtre saint Paul de nous redire aujourd'hui, dites entre vous des psaumes, des hymnes, des chants inspirés. Chantez le Seigneur, célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment, pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu, le Père. Merci de votre attention.
Entrez dans la prière des psaumes, vous venez de suivre l'intervention de l'abbé Jean-Bernard Hayette, délégué épiscopal à la catéchèse, intervention enregistrée lors de la récollection de l'Avent proposée par le service diocésain de la catéchèse le 5 décembre 2019 à Salis de Béarn.